Merci Seigneur d'être ici présent avec mes frères et mes sœurs par Internet. Merci Seigneur de nous donner de l'amour pour ta parole ensemble. Et merci Seigneur pour ton intervention divine dans les événements de l'histoire. Merci pour tous tes bienfaits dans nos cœurs, dans nos âmes. Seigneur, nous te prions pour les âmes perdues encore aujourd'hui. Elles sont nombreuses. Nous t'en prions. Seigneur, sauve aujourd'hui les âmes perdues. Plusieurs sont dans mon esprit, plusieurs sont dans l'esprit des membres de ma famille, de notre Église. Nous te les remettons tous. Oui, Seigneur, nous sommes là, à ton service, comme serviteur inutile, à ton service, pour ce manteau de grâce que tu voudras bien mettre sur toutes ces personnes que nous rencontrons, que nous côtoyons, auxquelles nous pensons. Au nom de Jésus, amen. Dans Jérémie, chapitre 15, verset 17, « Je me suis assis dans l'assemblée des moqueurs, donc c'est la société humaine, afin d'y m'y réjouir. » Bon, on essaye toujours d'être bien quelque part. « Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. » C'est un homme qui appartient à Dieu et il n'arrive pas, quelque part, à se sentir bien, à se réjouir avec les moqueurs, les pécheurs, les railleurs. Il peut peut-être les aimer, mais c'est impossible de s'y plaire. C'est impossible de se configurer, se conformer aux paroles, aux pensées, aux façons de vivre, d'être, des personnes alentour. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Ça ressemble au psaume 1, n'est-ce pas? Car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source d'eau trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Excusez-moi, la première fois que j'ai lu, je vous ai lu le verset 17, « Je me suis assis dans l'assemblée des moqueurs ». C'est un lapsus, c'est faux. « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir ». Voilà. Sachez bien à quoi vous attendre avec ce verset. Soyez de ceux qui veulent être une muraille d'airain, hein, une muraille qui résiste à l'égarement des humains, car l'égarement est puissant. Alors, aujourd'hui, parce que quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut être sauvé, on peut être en accord avec Dieu, être béni par Dieu, sauvé, si on a de la compassion pour son prochain, si on a de l'amour pour son prochain? J'ai répondu à cette personne, non. Nos œuvres, nos actions, nos mérites ne servent à rien devant Dieu, car nous avons aussi des péchés, des défauts, et Dieu ne peut pas admettre en sa présence notre péché. Il faut être absolument saint, pur et purifié. Donc il n'est pas question d'être, de se présenter avec des mérites devant Dieu. Qu'on ait fait des tas de prières, quelle que soit la religion qu'on a, quels que soient les efforts qu'on fait, on ne gagne pas une place au ciel, tout près de Dieu, dans sa gloire, dans sa sainteté, dans sa beauté, dans sa grandeur, son infinie intelligence. On ne gagnera pas, on n'aura pas de place auprès de lui. Mais comment peut-on avoir une place? Alors, j'ai repris ce dimanche ce message de la grâce, c'est-à-dire du cadeau gratuit venu de Dieu. Et pour cela, j'ai pris le début de la Genèse, le texte qui parle de la création de l'homme. Alors, voici ce que je vais vous lire. Genèse, Genesis en grec, ça veut dire commencement. En hébreu, c'est En Bereshit. Hein. Et Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bon, bien sûr, donc Dieu crée, c'est comme s'il avait un modèle type, un moule dans lequel il coule tous les humains. Dieu avait comme une matrice dans laquelle il met, il peut couler les humains pour leur donner la forme qu'il veut. Et quelle est cette matrice, quel est ce moule, quelle est cette image parfaite? Eh bien, c'est celle du Christ, un homme sans péché, sans faute, rempli de l'Esprit divin, de la Ruach. Dans le Coran, c'est la Ruach, dans la Bible, c'est la Ruach. C'est des langues cousines, hein, vous savez, l'hébreu et l'arabe. En français, c'est l'esprit divin. En grec, c'est pneuma. En latin, c'est verbum. Spirito, pardon. Alors, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, en même temps. Et donc, à part égale. Et ce qu'il y a, c'est que dans Colossiens 2,15, un texte beaucoup plus loin dans la Bible, il est dit ceci, dans Colossiens, que le Christ, Jésus, est l'image du Dieu invisible. L'image, c'est-à-dire le portrait. C'est l'homme sans péché. C'est l'homme sans péché, c'est l'homme dans lequel la sainteté se trouve à l'état pur, comme Dieu l'a donné, comme Dieu l'a vu chez l'homme. Mais donc, le modèle, si vous voulez, la matrice dans laquelle sont coulés tous les hommes, c'était en fin de compte la personne du Christ. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Pas toujours facile de tourner les pages en même temps que de vous parler. Colossiens. Voilà. Alors. Colossiens 1, 15. Chapitre 1, verset 15. Le Christ est appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. C'est quoi le premier-né? C'est celui qui a le droit d'aînesse. Dans les humains, si vous voulez, en l'absence du papa, s'il est décédé ou il est en voyage, c'est l'aîné qui prend la direction de la famille en Orient, dans beaucoup de civilisations. Ça s'est perdu ici, malheureusement, depuis 50-60 ans. Donc, souvent, les familles sont dans la pagaille générale. Mais à ce moment-là, le fils aîné avait un mandat automatique de responsabilité de la famille. Et donc, le premier-né, prototokos en grec, ça veut dire celui qui a le droit d'aînesse, celui qui a le droit de conduire les autres vers Dieu. Et donc, Jésus porte le nom de fils. Pourquoi? Parce que c'est l'image. Il est sans péché. Si Dieu veut vraiment avoir quelqu'un qui lui ressemble sur terre, qui soit sans péché, qui soit dans le même esprit que lui, c'est lui. C'est pas qu'il est né de code génétique de Marie et d'un acte sexuel entre Dieu et Marie. C'est faux. Il n'y a jamais eu ça dans la Bible. Ça, c'est une création a posteriori qui a été imaginée dans le monde grec dans les deux, trois siècles qui ont suivi Jésus. Et qui, bien sûr, scandalise les musulmans, parce que Dieu et l'homme ne peuvent pas coucher ensemble. C'est normal. C'est de la blague. Donc, si Marie, mère de Jésus, a porté le Jésus, elle était une mère porteuse. Dieu a déposé Jésus dans son ventre. Il n'y a rien de son code génétique, ni d'un autre homme, ni de personne. Jésus vient d'en haut, vient du très haut. Alors, Et Jésus, Yeshua, c'est celui qui sauve. Et l'autre nom pour Jésus, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ça veut dire, c'est un peu provocateur pour certaines personnes, surtout dans certaines religions, qu'un homme soit appelé Dieu avec nous. Mais que voulez-vous? Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a désigné Jésus comme étant son fils. Pas comme un fils humain, un fils né du lit, hein, matrimonial, c'est pas ça. Il n'est pas question de penser ça. Pourquoi il l'appelait comme ça? Regardons bien. Dieu créa, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, ils étaient vraiment remplis de sainteté, de vérité, de bonté, d'intelligence. Ils connaissaient le bien sous toutes ses formes. Et ils avaient en eux une perfection morale, une sainteté remarquable. Et ils étaient déjà faits pour être à l'image, sur terre, représenter Dieu. Ok? Représenter Dieu. Bon, le problème c'est que Satan a proposé quelque chose d'autre. Il est venu toquer sur l'épaule de Ève et puis d'Adam en disant, tu sais, c'est très bien, tout ce que tu as reçu de Dieu, c'est très bien, je ne le conteste pas. Mais si tu veux, peut-être bien que je pourrais te donner quelque chose en plus. Tu pourrais connaître aussi les arts raffinés du mal. Tu pourrais savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Tu pourrais savoir. Tu serais encore plus intelligent si tu savais ce que c'est que le mal. Or, ça, c'est interdit. Dieu ne veut pas que nous connaissions le mal, que nous nous y intéressons. Et c'est pour ça que dans la Bible, l'arbre du bien et du mal est l'arbre, si vous voulez, c'était l'arbre sous lequel les grands rois, les grands responsables de l'Orient en Inde et tout ça, j'ai vu une fois une photo d'un maharaja en Inde sous un arbre, avec 15 000 personnes à l'ombre sous un arbre. C'était un arbre immense. C'était l'arbre du tribunal, du jugement. Et là, le maharaja définissait pour tous les conflits le bien et le mal. Donc, c'est l'arbre qui représentait dans la Bible, qui représentait la place où Dieu se mettait pour commander les hommes et définir ce qui était bien, ce qui était mal. Or, le problème, c'est que Satan leur dit, mais vous pouvez choisir vous-même de définir le bien et le mal. Vous pouvez être aussi malin que Dieu. Et faites vos règles à vous, faites votre vérité à vous, faites votre religion à vous, etc., etc. Hein? Faites votre politique à vous, faites votre sexualité à vous, faites vos finances à vous, faites votre orgueil à vous. Et finalement, l'homme a offensé tellement Dieu que la coupure était magistrale, c'est ce qu'on appelle la mort. La séparation entre l'homme et Dieu, c'est ça le mot mort. C'est une séparation spirituelle éternelle. L'homme est désormais dans la mort. Il est séparé de Dieu. Et en plus, à cause de cela, dans tous les vices et toutes les mauvaises attitudes qu'il a adoptées après, les crimes, les meurtres, les guerres, etc., les viols, les affaires d'argent frauduleuses, etc., abusives, il y avait évidemment la mort physique, la santé en a pris un bon coup. Oui, parce qu'avant, l'homme ne connaissait pas la mort. Avec Dieu, lorsqu'on reçoit la vie, on ne reçoit pas la mort. Avec le péché que Satan a proposé à l'homme, cet esprit d'orgueil pour pouvoir pratiquer le bien et le mal avec son propre vouloir et ne pas être soumis à Dieu, avec cet esprit-là, nous sommes rentrés dans une mort physique autant que spirituel, éternel. Alors, chers amis, faites bien attention. Cet homme est malheureux, évidemment. Lorsqu'il a réalisé qu'il n'est plus du tout en paix, qu'il est torturé, qu'il est divisé, que dans la première famille, un des fils tue l'autre, tue son frère, ça y est, la pagaille générale commence sur la terre. Alors, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous expliquer que dans Genèse, chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Adama, ça veut dire argile. Donc l'homme, c'est l'argileux, la femme, c'est l'argileuse. Hein. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Bon, Une âme vivante, c'est pas seulement un être psychologique. C'est pas quelqu'un simplement qui, avec son cerveau, a des pensées, et puis quand il meurt, il n'y a plus de pensées. C'est pas ça. L'âme est bien supérieure à cela. C'est un don divin fait à l'être humain, et c'est quelque chose que, quand l'homme naît et est engendré, Dieu met l'âme, elle est immortelle, elle ne disparaîtra jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut nous prouver que c'est vrai? Mais je vais vous dire, depuis à peu près 40 ans, on opère du cerveau, on endort les gens, on met le corps à 17 degrés, on ouvre leur boîte crânienne et on opère dans le cerveau. Pendant qu'on opère dans le cerveau, toutes les ondes cérébrales du cerveau, qui est pour la connaissance, pour la conscience, sont à plat. Il y a juste les ondes du cervelet qui commente le cœur et les poumons. Bon, pendant toute l'opération, tout se passe bien, et puis après, on ferme la boîte crânienne, on recoule le cuir chevelu, et on remonte tout doucement la température de l'individu, et on le met en salle de réveil, et puis on prend soin de lui. Bon. Évidemment, depuis 40 ans au moins qu'on fait ces opérations, il y a eu des expériences assez bizarres. Sur environ 12 à 14% d'individus, à travers les États-Unis, le Canada, toute l'Europe, et même d'autres pays, où on a des bonnes salles d'opération, on a des gens qui ont témoigné de quelque chose. Il y a plusieurs types d'expériences. Premier type d'expérience, la plus classique, c'est j'étais au-dessus, dans la pièce, et je voyais le médecin, je vous voyais, vous, tel et tel médecin, qui se parlait, qui ont parlé de ceci, de cela, qui faisait telle et telle chose dans mon crâne, et qui ont eu telle et telle conversation, qui parlaient des vacances, qui parlaient du mariage de leur fils, etc., et qui parlaient un peu de tout, tout en opérant. Et quand l'opération était finie, quand le cerveau a fonctionné, je n'étais plus au plafond, je n'étais plus au-dessus, mon âme est rentrée dans le corps. Bon, il y a un deuxième type d'expérience, mais tout ça là est relaté par des centaines de milliers de cas. Au début, on en rigolait, mais pas plus maintenant. La science ne nie plus tout ça. Alors, le deuxième type d'expérience, c'est je suis parti loin et j'étais dans un tunnel blanc. Je voyais une immense clarté, une immense pureté, et parfois j'ai vu Jésus, j'ai vu quelqu'un de très lumineux, j'ai vu quelqu'un d'infiniment bon qui m'aimait. Et puis il y a une autre expérience, c'est j'étais dans un tunnel tout noir, c'était horrible, je ne savais pas où j'allais, j'étais perdu, ou je voyais des flammes. Bon, tout cela, c'est relaté. Il y a des milliers de cas de témoignages enregistrés, inscrits. Qu'en ont tiré comme conclusion les scientifiques? Eh bien, c'est que quand le cerveau ne fonctionne pas, la conscience fonctionne. Ils appellent ça la conscience. Nous, dans la Bible, on appelle ça l'âme. L'âme est vivante. L'âme n'a pas besoin du cerveau pour exister. L'âme est donnée quand la cellule du papa et de la maman se fusionne et se multiplie par deux toutes les demi-heures. Il y a déjà l'âme. Et c'est la même âme que quand il naît, mais même quand il a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans. L'âme n'a pas de taille comme le corps, n'a pas une évolution comme le corps. L'âme habite dans un corps, elle habite dans une tente, comme disait Paul. Elle campe, elle demeure pour un certain temps, en voyage dans ce corps. Et cette âme ne disparaîtra jamais. C'est ce que Jésus a voulu témoigner, que à la résurrection, quand Jésus reviendra, les morts qui ont cru en lui vont ressusciter et leurs corps vont ressortir des tombeaux, leur âme va revenir dedans. Ils seront glorieux, ils ne connaîtront plus la mort, ni la maladie, ni le deuil, ni le chagrin. Ça, c'est l'œuvre puissante de la résurrection de Jésus sur le royaume de la mort. C'est la victoire de Jésus, non pas seulement de Jésus. C'est la victoire de Dieu, parce que Dieu n'a jamais voulu la mort. Il n'a jamais voulu la séparation entre l'homme et lui. Il n'a jamais voulu les guerres, il n'a jamais voulu les maladies, ni les deuils, ni les chagrins. Tout cela ne vient pas de lui. Tout cela est la conséquence du péché et de l'œuvre de Satan. Alors, chers amis, sachons bien que l'âme vivante est donnée par Dieu, elle n'est pas éternelle, elle a un début, mais elle est immortelle, elle ne disparaît plus après. Tandis que le corps, lui, il a eu un début, il y a une fin, hein, on décède, et puis ensuite, il y a une résurrection. Il y a deux types de résurrection dans l'Évangile, selon la Bible. La résurrection des saints, quand Jésus revient, qui sort des tombeaux, et ceux qui sont sur terre, qui croient vraiment en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui font la volonté de Dieu, hein, qui vivent en sainteté réellement, comme Dieu le demande, à l'exemple de Jésus, eh bien, ces personnes-là sont enlevées et sont mises à part pendant que c'est la grande bagarre sur la terre, pendant 7 ans. C'est ce qu'on appelle les tribulations. À la fin des tribulations, évidemment, le royaume de Jésus vient sur terre, où tous ces gens sont avec lui, pour régner sur terre 1000 ans. À la fin du règne de 1000 ans, il y a la résurrection des injustes, c'est-à-dire de ceux qui n'ont refusé la sainteté, refusé le message du salut, refusé le message de Jésus, et qui ne veulent pas de la sainteté, ni de Jésus, ni de l'amour de Dieu. Je ne parle pas des ignorants qui n'ont jamais été enseignés. Ça, c'est un autre problème. Je ne parle pas des malheureux qui ont été abusés et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont abusés et qui ne savent plus. C'est plus complexe. Mais je parle de ceux qui ne veulent pas, qui ont entendu et qui ont refusé. Alors, ça, c'est la résurrection des injustes. Pour tout ce que j'ai dit là, pour ceux que je viens de citer là juste avant, il y a des explications à donner, c'est pas le moment aujourd'hui. Alors, l'âme est vivante, tenez-vous bien, donc, Dieu forma l'homme, Genèse 2, verset 7, l'homme de la poussière de la terre, donc Adama, l'argileux, et la femme, l'argileuse. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, ainsi que la femme, hein, évidemment. Le mot en hébreu, c'est nefesh. Nefesh. Un être vivant. Bien que je décéderai un jour, je serai mis dans un cercueil, je reste un être vivant. En attendant que Jésus revienne et que je ressuscite avec lui, pour être dans son royaume. Voulez-vous être de ceux qui sont dans la résurrection des justes? De ceux qui sont justes, ça veut dire les meilleurs que les autres? Non, pas du tout. Juste celui qui a demandé pardon pour ses péchés, qui a accepté le sacrifice de Jésus à la croix, qui a reçu le pardon de Jésus dans son cœur, et qui a adopté la parole de Jésus pour en vivre en profondeur, et qui a fait l'expérience, à un moment donné, de l'amour de Jésus dans sa vie, parce qu'il s'est donné entièrement. Quand on se donne entièrement à Jésus, Dieu se donne entièrement à nous. Et Dieu est heureux de voir un homme qui a accepté celui qui l'a envoyé, son Messie. Alors, nous allons aller plus loin. Ce serpent rusé, au chapitre 3, verset 1, c'est un archange en fait. C'est un archange, un des chefs des anges, un tiers des anges ont été commandés par cet archange, et il s'est révolté, il s'est glorifié, il a voulu être au-dessus de Dieu et tromper les gens et se faire adorer à la place des hommes, de Jésus et de Dieu. Alors, ce serpent, cet archange, vous pouvez avoir les explications d'Ézéchiel 28. Lisez-les, vous verrez. Et dans Ésaïe 14. Ce n'est pas l'objet de mon message aujourd'hui. Alors, ce serpent, cette image de celui qui se traîne par terre, c'est parce que dans Ézéchiel, cet archange a perdu toute sa gloire, a été banni du ciel et se traîne par terre dans la poussière sur la terre. C'est l'image du rejet. Le serpent, l'animal en question, n'est pas plus mauvais que le chat ou le chien. Mais c'est l'image de quelqu'un qui est déchu, qui se traîne par terre et qui a perdu toute sa gloire. Voilà. Ce Satan a voulu promettre aux hommes et à Ève, au verset 5, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, donc que vous choisirez de connaître le bien et le mal, de savoir autant ce qu'est le mal et de le faire, et autant ce qu'est le bien, c'est-à-dire d'être double, ça s'appelle la duplicité. Bon, Dieu ne veut pas de gens doubles, il veut des gens vrais. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, donc vous ne serez jamais séparés de Dieu, vous ne connaîtrez pas la mort physique, c'est une promesse menteuse, un mensonge. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dieu ne connaît pas le mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas tenté par le mal. Dans Jacques, chapitre 1, le frère de Jésus explique clairement que Dieu ne connaît pas le mal et n'est pas tenté par le mal. Donc, il n'y a que Satan qui connaît le mal, parce qu'il est orgueilleux. Alors, vous serez comme Dieu, c'est un mensonge. Parce qu'ils vont s'écarter complètement, ils vont connaître que la misère. Et vos yeux s'ouvriront, eh bien, c'est les yeux de la connaissance, au-delà du moyen humain, au-delà des moyens que Dieu a donnés. Donc, par exemple, l'occultisme, la sorcellerie, la divination, la voyance, etc., les lignes des mains, regardez les mares de café, la forme des serpents à terre, regardez la forme des nuages, les augures, on appelle cela. La divination en général, c'est vos yeux s'ouvriront, ce sont tous des arts sataniques pour donner l'impression aux hommes qu'ils sont très intelligents et qu'ils en connaissent plus que Dieu. Et qu'ils peuvent diriger les gens et leur faire du bien. Faux, complètement faux. Ils les conduisent vers leur perte. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea, elle l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. L'image de la complicité de l'homme et de la femme pour participer à cet égarement, à ce dérapage, et profiter du mal, il y a toujours du plaisir, c'est vrai. Il y a du plaisir. J'avais des enfants de 13-14 ans, dans un athénée, pas loin d'ici, à 22 kilomètres, et un jour, un gendarme est venu donner un cours sur les problèmes sexuels, les abus sexuels dans la société. Pour finir, il était en confiance, il parlait avec tout le monde, il donnait des cas. Puis il finit par livrer, mais vous savez, ça fait du bien. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, mais j'ai une maîtresse, et je fais beaucoup mieux l'amour avec ma maîtresse qu'avec ma femme. Je jouis beaucoup mieux, parce que c'est interdit. Il ose dire ça à mes enfants, mais mes enfants sont chrétiens. Ils l'ont répété. Les autres, ils l'ont accepté. Ils ont accepté cette parole mauvaise, ils l'ont écoutée. C'est rentré dans leur cœur, dans leur âme. C'est comme ça qu'Adam et Ève se sont fait avoir. Ils ont écouté le malin. Nos enfants n'ont pas écouté le malin. Nos enfants ne se conduisent pas comme ça. Parce que nous avons veillé sur eux, nous avons pris avec eux, nous avons pris la Bible pour leur expliquer que c'était la voie de la perdition. L'adultère, la débauche sont des formes d'égarement qui mènent à la perdition éternelle. Et qui sont l'expression de la rupture totale avec Dieu. Et qui sont source de grands malheurs. Donc, vous voyez ici, il y a des promesses. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. C'est faux. J'ai 75 ans, 74 ans, 74 ans pour les Belges, et j'ai fait des mouvements de jeunesse depuis l'âge de 18 ans. Beaucoup. J'ai fait des mouvements, il y a eu des centaines de jeunes, et dans la plupart, peu ou pas du tout ont accepté l'évangile. Parce que les parents et leurs maîtres à l'école enseignaient le contraire. La plupart sont tous morts. N'ont pas atteint 65 ans. La plupart sont morts. J'en rencontre encore quelques-uns qui se traînent et qui ne sont pas, ils n'ont pas une figure brillante. Et ils n'ont pas une vie brillante. Et je les vois, alors que le Covid est fini, encore avec des masques. Même tout seul à vélo ou en voiture, dans le trottoir. Ils ont peur de la mort. Ils sont dans l'angoisse, dans la misère morale intérieure. Il n'est pas nécessaire d'écouter les promesses de Satan. Il faut s'en écarter. Et pour celui qui parmi vous voudrait avoir des informations, j'ai une belle petite brochure, Les yeux ouverts sur les ruses de Satan, ça vaut la peine. Alors là, ça vaut la peine pour être éclairé. Et pourtant, c'est écrit il y a 40 ans. Ayez les yeux ouverts sur toutes les ruses que Satan propose, à votre vie et aux autres. Lisez l'Évangile tous les jours. Aimez Jésus, aimez la sainteté de Dieu, aimez la vérité. Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. » Écoutez la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Lisez l'Évangile tous les jours, les amis. Et pas 5 minutes. Pas 5 minutes, je vous en prie. Au moins une demi-heure au matin, une demi-heure au soir. Prenez un cahier, notez. Si vous avez des questions, vous avez des choses enrichissantes ou des questions, ben écrivez-moi, je peux vous répondre. Jean Bayeux, 69 rue Grant, Belgique, 6760, Gomery, Gomery, trait d'union, Virton, Virton. Il faut absolument avancer, les amis. Il faut éviter ce piège qui est tentaculaire, qui est tombé sur le monde avec la tentation de Satan. Soyez de ceux qui veulent échapper. Soyez de ceux qui veulent être sauvés. Quand Jésus reviendra, vous voulez être de ceux qui veulent échapper à ce monde de tribulation effrayant qui va arriver d'ici peu. Où Satan règnera. Alors, je vous donne un exemple de ce qui se passait au chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, ben oui, il y avait beaucoup de filles, comme beaucoup de garçons, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. J'ai passé 2-3 jours à étudier ces versets, en hébreu, en grec, etc. Et puis j'ai lu des commentaires. Alors voilà ce qui se passe. Les filles impudiques, qui s'habillent n'importe comment, qui s'habillent et qui provoquent, qui recherchent des relations sexuelles hors du mariage, qui recherchent des expériences de jouissance, de volupté, mais pas de expérience de responsabilité pour créer une famille. Alors, ces belles filles ont rencontré de quoi ? Qu'est-ce que nous voyons là ? Les fils de Dieu. Le titre fils de Dieu, dans certains cas dans la Bible, c'est les démons. Parce que les démons sont des créatures venues de Dieu, qui étaient parfaites et qui ont choisi un mauvais chemin. Elles sont toujours, bien sûr, dans le plan de Dieu, mais elles se sont échappées des mains de Dieu, elles ont voulu contrecarrer le plan de Dieu, le plan de sainteté. Et ces démons, alors, viennent habiter le mental des hommes, les hormones des hommes, qui vont copuler, qui vont rechercher ces femmes provocatrices, et qu'est-ce qui se passe? Ils vont engendrer des enfants violents, des enfants rebelles, des enfants qui ont à démanger les choses agréables, des enfants qui ont que l'apparence de piété, mais qui sont horriblement mauvais. Et c'est à cette époque que les géants, Anakim, étaient sur la terre en ces temps-là. Et ce sont ces fameux héros nés dans l'Antiquité, au verset 4. Donc, Nebuchadnezzar, Alexandre le Grand, etc., Napoléon, Staline, Hitler, etc., ce sont tous des gens nés dans des relations sexuelles impures, diaboliques. Poutine aussi. Tous ces gens ont quelque part des racines là-dedans. Et ils sont enchaînés à Satan pour faire le mal. Et on les appelle les fameux héros de l'histoire. Vous verrez tous les livres d'histoire, ce n'est que des carnages avec tous les noms de paranoïaques, de schizophrènes qui dirigent des peuples qui se laissent conduire à la boucherie. Donc, les géants étaient sur la terre, en verset 4, les Hanakim, ça veut dire, ben oui, qui n'est pas... Qui est plus grand que M. Macron? Qui est plus grand que Biden? Qui est plus grand que Trump? Qui est plus grand que Poutine? Qui est plus grand que le président de Chine? Qui est plus grand que le président de l'Iran? Mais frottez-vous-y, ils vous élimineront. Ils sont les géants de notre époque. Et pourtant, ils disparaîtront et ils iront en enfer. Ils seront brisés. C'est de ce fait de la corruption sexuelle, de la débauche sexuelle, que vient la méchanceté sur la terre. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La dernière fois que je suis allé à Bruxelles, j'y vais de temps en temps. Je prends le taxi pour aller voir deux personnes. Parfois, elles ne sont pas là, c'est arrivé. Mais j'en profite toujours en disant, Seigneur, si je ne les ai pas rencontrées, fais-moi rencontrer d'autres personnes. Seigneur, c'est que tu as un plan. Et je fais toujours des bonnes rencontres qui m'amènent à pouvoir parler de la grâce que le Seigneur fait à ceux qui le cherchent. Pratiquement, chers amis, je me suis assis, lorsqu'un chauffeur de taxi m'a déposé, je me suis assis à une tasse d'un café, j'ai pris un tout petit plat de rien du tout, pas cher, et un coca, et puis je me suis dit, je prends ma Bible et mon cahier, je vais faire une page entière de réflexion avec des citations bibliques pour cet homme, ce chauffeur de taxi, et je vais téléphoner après, je vais à la gare des taxis, je vais l'appeler, et puis je lui donnerai, je retournerai la conscience en paix, j'aurai fait mon travail, mon devoir, enfin le début de mon travail. Dieu fera tout le reste. Mais ce qu'il y a, après j'ai rencontré des gens en train, à droite et gauche, j'ai fait la même chose. Pratiquement, si vous voulez, cet homme m'a dit, j'aimerais bien de connaître Dieu en profondeur. J'aimerais bien vivre en profondeur avec lui. Je suis un homme réaliste. Je sais que Dieu existe, mais je n'ai pas de profondeur avec Dieu. Qu'est-ce que veut Satan? C'est que vous ayez une connaissance superficielle de Dieu et que vous vous égariez loin de lui. Qu'est-ce que veut Jésus? Qu'est-ce que veut Dieu par Jésus? Une connaissance profonde, une relation vivante, sincère et vraie avec lui. Comment pouvez-vous l'avoir? En lisant régulièrement sa parole. Car quand vous lisez sa parole, présentez-vous humblement devant Dieu en disant « Parle, Seigneur mon Dieu, ton serviteur t'écoute. » Ou « Parle, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'entendre ta parole et de vivre de ta parole. Je veux aller aux eaux vives, je veux connaître les profondeurs de ton amour, de ta vérité. » Amen. Et puis on lit. Bien sûr, il peut arriver, ça dépend de ce qu'on a eu comme passé, etc., qu'on a des éblouissements dans les yeux, qu'on a mal à la tête, qu'on a les yeux qui piquent, qu'on a toutes sortes d'oppressions à la poitrine. Ça arrive, il y a des manifestations démoniaques. Mais alors, appelez le pasteur pour qu'il prie pour vous, ou rencontrez des chrétiens qui prient pour vous, de vrais chrétiens. D'autre part, vous pouvez dire aussi, arrière Satan au nom de Jésus. Moi, je veux Jésus. C'est Jésus, point d'autre. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus qui t'a vaincu à la croix. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que Satan n'a pas tous les pouvoirs sur la terre, même s'il a séduit Adam et Ève. Maintenant, s'il y a eu un grand échec de l'humanité au chapitre 6 et qu'il y a eu le déluge, une grande punition, Dieu a manifesté sa colère. La prochaine colère, c'est par le feu. C'est durant l'époque de tribulation, les 7 années de tribulation, et c'est, à mon avis, très bientôt. Et qu'est-ce que Dieu a promis à l'homme dans son amour? Qu'est-ce que Dieu a promis de grandiose face à ce grand échec de l'humain? Parce que l'humain s'est planté, réellement. Il a vraiment fait pour... Je dirais que la pire des gaffes ou des pires des horreurs de l'histoire humaine, c'est l'égarement d'Adam et Ève, parce que tout le reste s'enchaîne. C'est une cascade après. Eh bien, c'est simplement que Dieu va mettre sur l'homme une peau d'agneau. Alors, c'est dans le chapitre 3, je pense. Je suis en train de chercher. Voilà. Chapitre 3 de Genèse. Adam donna, donc ici c'est Ish, donna à sa femme le nom d'Ève, Isha. Il y a deux noms, Adam, Adama, c'est l'argileux, l'argileuse. Puis il y a deux autres noms, Ish, Isha, l'humain, l'humaine. Hein, c'est de l'hébreu, mais dans le rap, on n'est pas loin de ces mots-là aussi. Car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, Ève, elle a été la mère de tous les vivants. Pourquoi? Même si les hommes meurent, l'âme ne meurt pas. Donc, Ève est la mère des vivants. Oui, c'est vrai, la Bible a raison. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Qu'est-ce que c'est de ce vêtement de peau sur Adam et Ève? Eh bien, dans Romains 5, 14, il est mis ceci, que Adam est le type de Christ. En grec, tupone, ça veut dire ceci. Quand je vais à la poste, j'ai une enveloppe, j'ai mis des timbres, je veux que dans l'administration, on sache qu'à telle date, j'ai remis mon courrier, parce que c'est la dernière limite, je veux que le cachet soit lisible. Que fait le postier? Il prend son tampon, il va, son seau, il va sur le tampon, il le met sur l'enveloppe, sur le timbre, et il est à côté. S'il est bien gentil, il le fait, comme ça, on est sûr, c'est authentifié, la date est sûre. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur le timbre ou à côté? L'image de ce qu'il y a sur le seau, dans la main du postier. Eh bien, le tupone, c'est l'image qu'il y a sur la lettre. Hein? C'est l'image de ce qu'il y a sur le seau. Eh bien, dans Romains, chapitre 5, verset 14, Jésus est le tupone, Adam est le tupone de Jésus-Christ. Il est l'image, il a sur lui la marque de Jésus-Christ. Dieu a mis sur lui la marque de Jésus-Christ. Alors, c'est subtil tout ça, mais la Bible est pleine de subtilité, d'une intelligence phénoménale. Et ce qui est... Donc Adam et Ève ont reçu la marque de Christ, c'est-à-dire l'assurance que Jésus-Christ donnerait sa vie, l'agneau sacrifié, à la croix, pour eux, pour les sauver. Donc, tous pécheurs qu'ils sont, et toutes les catastrophes qui vont suivre jusque maintenant, toutes ces catastrophes sont sous le sang de Christ, c'est-à-dire que la victoire appartient à Christ. Le prophète Osée, au chapitre, au 8e siècle, au chapitre 13, dit « Ô mort, où est ta victoire ?» La mort était engloutie dans la victoire de Dieu. Et Paul reprend cela au chapitre 15 en parlant de la résurrection de Jésus. Donc, qu'est-ce qui est fait comme promesse à Adam et Ève? C'est le salut de l'humanité en Jésus-Christ. Pour ceux qui vont croire en lui, évidemment. Et le salut dans, à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'agneau sacrifié. Donc Adam et Ève ont reçu un manteau de grâce, un manteau d'une promesse éternelle pour tous nous tous. J'appelle cela le manteau de la grâce, du cadeau immérité pour une vie éternelle. Et cela, c'est très important, chers amis, ne laissez pas cette certitude, ce message de Dieu de côté. Quand Jean-Baptiste voit arriver Jésus au Jourdain, il dit à ses disciples, il avait parlé que le Messie allait arriver, mais il ne savait pas que c'était son cousin. Alors Dieu lui avait dit, quand tu verras l'Esprit Saint descendre sur une forme de colombe, sur le bonhomme que tu baptiseras dans le Jourdain, c'est celui-là le Messie que j'ai envoyé. Et tout d'un coup, il se rend compte que c'était son cousin, qu'il connaissait bien, mais il ne savait pas que c'était le Messie. Et Dieu a ouvert les yeux à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a dit automatiquement à ses 11 disciples, pas les 12, parce que Judas Iscariote venait de Jérusalem, les 11 autres qui ont été fidèles venaient de fidèles à moitié, hein, il a fallu que Jésus aille les récupérer, mais ce qu'il y a, ils venaient de Galilée, du pays où Jean-Baptiste les a formés, dans les promesses de l'Ancien Testament. Comme je vous le fais là maintenant. Et il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, suivez-le. Qu'il croisse et que je diminue. J'ai fini mon boulot. C'est à lui de faire son ministère de salut pour les hommes, pour Israël et pour les hommes. Chers amis, si Jean-Baptiste À 10 ça de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean chapitre 1. Hein. Il est clair qu'il était en référence avec la promesse faite à Adam et Ève. Alors, où y a-t-il d'autres promesses du même genre, chers amis? Eh bien, il y a une promesse faite au chapitre 22 de Genèse. Tout le monde connaît, plus ou moins, hein, ça dépend de la culture, quel degré on a de culture biblique. Tout le monde connaît ce sacrifice d'Abraham sur le mont Morija, donc à Jérusalem, là où il y a la mosquée du Rocher, l'Aqsa. Cette mosquée, en fait, c'est comme un déambulatoire tout alentour, à l'intérieur, avec un garde-corps magnifique, et au milieu, il y a un rocher qui sort de terre. C'est le lieu où Abraham a voulu sacrifier son fils. Alors, Isaac, le fils, avait déjà 20 ans, il a porté tout le bois pour ce sacrifice. C'était pas un petit gugus de 7-8 ans, 6 ans. C'était pas un enfant, inconscient. Et le papa aussi, ils allaient pour faire un sacrifice. Et ils ne pensaient pas que c'était le sacrifice d'Isaac. Pas du tout. Pas du tout. Voilà ce que disent dans leur dialogue le papa et le fils. Verset 7. Donc Genèse 22, verset 7. Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Il répondit « Mais voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Il est clair que Abraham et Isaac faisaient référence à cet agneau que Abel avait sacrifié. Abel, le fils d'Adam et Ève, avait sacrifié un agneau en attendant la venue du Messie. Caïn, lui, ne voulait pas sacrifier d'agneau, il n'attendait pas la grâce du Messie, il faisait confiance dans ses moyens, il voulait se sauver par ses mérites, il offrait des fruits, des légumes, des fleurs, etc. à Dieu. Il voulait une religion par le mérite, par les œuvres. Tandis qu'Abel avait, c'était la foi en la grâce. Il n'y a pas de salut hors de la grâce. Et dans la religion des mérites, des œuvres, il n'y a pas de salut. La preuve, c'est que dans le texte de la Genèse, Dieu n'agrée pas le sacrifice de Caïn. Et Caïn est irrité, est fâché et tue son frère. C'était bien la démonstration qu'il n'était pas dans la voie de Dieu, puisqu'il tue son frère. Puisqu'il est dit dans la première épine de Jean que celui qui n'aime pas son frère, qui dit aimer Dieu, est un menteur. Alors, reprenons ce texte de Genèse chapitre 22 que je vous conseille de lire attentivement du verset 1 au verset 19. Lisez-le, c'est très important pour connaître le sens de la Bible. À cet endroit où Abraham vient avec son fils, 21 siècles plus tard, il y a un temple, le temple de Salomon, et c'est là que le grand Sanhédrin, pendant la nuit, de manière illégale, se réunit, parce qu'il ne pouvait pas se réunir à nuit, condamne Jésus à mort. 21 siècles plus tard. Alors, que s'est-il passé? Quelle est la discussion? Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Il répondit « Mais voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » C'est une prophétie. Dieu choisira lui-même son agneau et l'amènera lui-même à cet endroit. C'était le Christ bien-aimé, Jésus. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il va à un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Je m'excuse pour les musulmans, je n'en veux à personne, mais ce texte est de 21 siècles avant Jésus et est écrit par Moïse au 14e siècle avant Jésus, et le Coran, qui dit que c'est Ismaël, a été écrit au 7e siècle après Jésus. Il y a quand même un décalage de 21 siècles entre Muhammad, et le Coran, et le texte de la Genèse ici. 21 siècles. Et si on compte les 7 siècles où ça n'a pas été mis par écrit, qu'il a fallu attendre Moïse, c'est plus que ça. C'est 27, 28 siècles. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange éternel, dans l'Ancien Testament, l'ange éternel, c'est le Christ. Je peux vous démontrer ça avec d'autres textes. Je n'invente rien. L'ange éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham ». Il répondit « Me voici ». L'ange dit « L'ange éternel, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je suis maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Le sacrifice d'un homme n'est pas suffisant pour sauver l'humanité de tous les péchés, de toutes les horreurs qu'elle commet, qu'elle a commises et qu'elle commettra. Il faut un sacrifice saint, sans défaut, sans péché, de haute valeur, d'un prix plus considérable que l'offense faite par les humains à Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour mourir en sacrifice, pour payer notre dette, et pour que la colère de Dieu ne soit plus sur les humains, et que les humains puissent être pardonnés, s'ils demandent pardon, évidemment. Alors Abraham donna à ce lieu le nom de Javé-Jiré, c'est pourquoi l'on dira aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». Donc, vous voyez bien, Abraham a sacrifié un bélier à la place de son fils, verset 13, « Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham allait prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. » Ça, c'est la fête de l'Aïd dans l'islam, c'est la fête du mouton, n'est-ce pas? Et Abraham donna ce lieu le nom Javé-Jiré, donc Dieu pourvoira. Oui, à Jérusalem, Dieu a pourvu par le sacrifice de Jésus pour nos péchés, pour notre salut. Et il établira un roi sur la terre. Oui, Dieu pourvoira encore. Il donnera un autre chef à l'humanité qui est saint, sans défaut, sans péché et qui n'est pas aux ordres de Satan. Jésus. Alors, que dit l'ange éternel ensuite? Genèse 22, 15. L'ange éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, par l'éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, de Satan et de tous ceux qui le suivent. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bien sûr, la postérité ici, dans Galates, c'est Jésus-Christ et tous ceux qui ont accepté Jésus, le sacrifice de Jésus, pour être sauvés. Prenons Galates. Galates chapitre 3. Est-ce que obéir aux 10 commandements que Moïse a donnés donne le salut? Non. Est-ce que avoir de l'amour, aimer son prochain comme Jésus l'a demandé, aimez-vous les uns les autres, hein, et aime ton prochain comme toi-même, est-ce que cela nous donne le salut? J'ai dit non à cette femme. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que le salut vient du sacrifice de Jésus-Christ qui paye notre dette et qui nous ouvre la porte du ciel. Ensuite, si j'aime Dieu et je reconnais que Jésus a fait ce grand salut pour moi, que je l'accepte, alors j'aime obéir par reconnaissance. Et j'aime la loi de Dieu, sachant que je ne l'accomplirai jamais parfaitement. Je l'accomplirai toujours imparfaitement, mais humblement, avec un grand esprit de vérité, comme Jésus me le demande. Alors je vous lis dans Galates chapitre 3, ceci. Verset 22. L'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi, la confiance en Jésus-Christ, à ceux qui croient en lui. Avant que la foi vienne, nous étions tous enfermés, prisonniers, sous la garde de la loi, les 10 commandements, les règlements. Tout cela était écrit en vue de la foi qui devait être révélée en Jésus-Christ. Ainsi, la loi était comme un précepteur, donc en l'absence des maîtres. Quand ils partaient dans les familles riches, on mettait un précepteur pour éduquer les enfants, parfois même plusieurs. La loi était comme un précepteur pour nous conduire à Jésus-Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi, c'est-à-dire innocentés, déclarés non coupables par Dieu, parce que nous avons accepté le sacrifice de Jésus, nous avons foi, le prix que Dieu a payé de donner son Fils pour nous, nous avons confiance dans la valeur de ce prix, nous avons pris conscience, et nous avons accepté d'être pardonnés par cela. Est-ce que, chers amis, il y aurait un texte dans Genèse concernant Abraham qui dirait la même chose? Eh bien oui. Oui, chers amis. Genèse 15. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, Dieu conduit Abraham dehors de sa tente pendant la nuit. Il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle est ta postérité. Vous imaginez. Et c'est quoi la postérité d'Abraham? Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lui imputa à justice. C'est un terme juridique qui existe dans la civilisation hébraïque et qui a été transposé aussi chez nous. C'est un acte judiciaire qui déclare une personne coupable, innocente. On gracie quelqu'un. Il a fait le mal, mais on le déclare, on déchire son casier judiciaire, on le déclare, tu peux recommencer à zéro ta vie. Et ne recommence plus. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. La foi d'Abraham a plu à Dieu et Dieu a déclaré que son état de pécheur n'était plus un obstacle pour venir auprès de lui dans le ciel. Que son état de pécheur était pardonné. Mais pourquoi est-ce que Abraham a cette confiance? Parce qu'il lui a été promis une postérité et la postérité c'est Jésus-Christ. La postérité, c'est Jésus-Christ. Je continue dans Galates, chapitre 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, attention à ce mot, c'est-à-dire qui avez accepté que votre vieille existence de pécheur soit crucifiée. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort là pour toi, mon ami, et ton péché a été crucifié là. Il l'a porté. Il n'avait pas de péché. Il est mort pour toi. Est-ce que tu le reconnais? Alors, tu es baptisé dans la mort de Jésus-Christ. Tu es enseveli. Baptizo, ça veut dire enseveli. Ensuite, eh bien, après Jésus ressuscité, il te montre la vie nouvelle, la puissance de la vie divine. Tu ressuscites dans la vie divine. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois la vie divine. C'est ça, baptisé en Jésus-Christ. C'est pas une question d'eau. D'être mouillé, si vous voulez. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et revêtu Christ, c'est un manteau sur nous de sainteté qui nous donne une autre présentation à Dieu, un autre statut devant Dieu. N'est-ce pas le manteau de grâce que Dieu a mis sur Adam et Ève? Mais oui, chers amis, tout se tient. Genèse 3, verset 20 et 21. Le manteau de grâce, le voilà. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, donc il n'y a plus de français et de belges, il n'y a plus de congolais et de russes. Tout ça, c'est des différences qui ne comptent pas pour Dieu. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Adieu le machisme, la ségrégation homme-femme. La ségrégation entre des hommes qui se disent les maîtres du monde et puis les autres des esclaves. Adieu. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse faite à Abraham. Oh mes amis, si vous pouvez comprendre cela, c'est très bien. C'est très bien. Je lis dans Genèse, dans Galates 3, verset 16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit à toutes ses descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agit d'une seule. à ta descendance, c'est-à-dire à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la descendance d'Abraham. Pourquoi? Parce que dans Genèse 18, verset 17 ou 18, il dit ceci: Tu enseigneras à tous tes descendants de vivre dans la droiture, la sainteté, la justice. Or, personne ne l'a fait. Il y en a peut-être bien qui ont essayé, mais on est tous des pécheurs. Personne ne l'a fait. Avec la meilleure volonté du monde, personne ne peut gravir les échelles pour monter au ciel et ouvrir la porte, forcer la porte du ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le seul qui accomplit la droiture et la justice, le seul qui accomplit cet appel fait solennel fait à l'humanité devant Abraham par l'ange éternel, par le Christ, eh bien, le seul qui l'accomplit, c'est le Christ. Et lequel qui a accompli l'Écriture, la loi, Jésus l'a dit. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu, mais j'en termine là. Matthieu, chapitre 5, je pense. Chers amis, si vous comprenez l'œuvre merveilleuse de Jésus pour vous, vous êtes très heureux. Alors choisissez de parler à Jésus directement. Dites-lui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je sais que tu as vécu humblement, sans péché, que tu es l'envoyé de Dieu. Tu es l'image de l'Éternel pour nous. Tu es l'expression même de ta gloire, de ta sainteté pour nous. Je t'accepte, Seigneur Jésus. Tu es la porte du ciel pour moi. Seigneur Jésus, et par ton sacrifice, tu as payé ma dette incommensurable que je dois par tous mes péchés et tous les péchés de mes parents et les péchés de mes enfants. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, verset 17, parce qu'il y avait des gens qui reprochaient à Jésus de ne pas faire les règlements. Alors Jésus répond ceci, Matthieu 5, verset 17, Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, donc de Moïse, les 10 commandements, ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul point sur un i, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, celui qui observera la loi, ça c'est plus loin dans le verset 19, la loi de Dieu, celui qui observera sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est grand. Et nous, nous marchons derrière lui. Dieu nous demande simplement d'avoir confiance dans l'œuvre de Jésus son Fils et de donner notre vie à Jésus. De reconnaître que c'est notre chemin, notre vérité, notre salut. Nous sommes lundi, un mercredi. Je vais sans doute parler là, bientôt, mercredi. Mais comment se fait-il qu'on nous a dit, allez, Matthieu 10, 28, 18 à 20, faites des disciples de toutes les nations, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, hein, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vais essayer de faire un pacte avec ça et de vous expliquer cela pour que vous compreniez bien où est le sens du baptême chrétien. Ça va? Que Dieu vous bénisse. C'est avec amour que j'ai essayé de vous expliquer le plan du salut. Avec mes petits moyens, que le Saint-Esprit fasse tout le reste dans votre cœur qui s'ouvre à lui.